Avec 11 titres, Étienne de Crécy réussit l'exploit de réaliser un disque cohérent et chaleureux malgré la diversité musicale de ses invités.
Radio G 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Lundi, on était avec le Sésame, mais attention, avec un Z, pour parler de films. Hier, on était en compagnie du Quasimodo et demain, on retrouve notre partenaire Loire Othion. Et ce soir, nous, on est accompagnés de 3 étudiants en licence information communication à l'UCO d'Angers. Pour parler du festival Terre des Sports, ça arrive très prochainement. Ça sera le 25 et 26 mars. Il y aura des initiations à différents sports, mais aussi des échanges avec des professionnels du domaine. Ce soir, on écoutera aussi la drôle de vie de Léona Graal. Et on se quittera avec la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Et Topette, c'est parti jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Mais juste avant de commencer, Sarah va d'abord nous emmener manger un petit peu à la cour en plein cœur du centre-ville d'Angers.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un endroit un peu plus hétéroclite que l'on ne choisit pas pour un événement en particulier, mais pour plein de moments différents de la journée. J'ai nommé la cour. Ouvert depuis 2-3 ans rue de Larreau par deux amis, tous deux anciens professeurs de plongée sous-marine. Parlons dans un premier temps du lieu. Grand, convivial, enveloppant, moderne et accueillant. De grands canapés en cuir vous attendent dans l'entrée pour partager votre table, éventuellement avec d'autres personnes. Puis, vous pourrez ensuite choisir entre des tables en hauteur, de vous asseoir au comptoir pour admirer leur magnifique bar ou de prendre des tables plus classiques dans la seconde partie du restaurant avec vue sur leur cuisine. Ces différents espaces et hauteurs créent justement cette ambiance chaleureuse où chacun peut trouver son bonheur. Au beau jour, vous tomberez évidemment sous le charme de leur cour intérieure, végétalisée, qui offre un véritable moment privilégié lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Du bois, du tissu, des lampions et de la verdure, que demander de plus en plein centre-ville ? À quel moment venir, me demanderez-vous ? Eh bien, je vous répondrai tout au long de la journée. Et c'est pour ça que ce lieu est devenu incontournable sur Angers. Dès l'ouverture, vous pouvez aller apprécier un délicieux cappuccino accompagné d'une viennoiserie dans un de leurs grands fauteuils confortables à souhait. Pour le déjeuner, la cuisine est saine, végétale et toujours inspirée de touches du voyage. La carte change toutes les semaines, les produits sont frais et locaux. Vous trouverez ici une cuisine moderne, gourmande et équilibrée. À l'heure du goûter, on se jette sur leurs pâtisseries maison qui sont à tomber. L'heure ensuite à laquelle je préfère venir, c'est celle de l'afterwork. N'attendez pas 20h car vous risquez de ne pas avoir de place. Mais en sortant du boulot, c'est l'endroit parfait pour aller prendre un verre. De très bons cocktails que vous pourrez accompagner de planches à partager, de burgers et de plats conviviaux qu'on commande à plusieurs pour goûter un peu de tout. Le tout dans une ambiance animée, vivante, inspirante, variée et branchée. Mais ce n'est pas fini. La cour est désormais the place to be pour apprécier un super brunch. Les meilleurs d'Angers à mon sens, le samedi et le dimanche matin. Vous y trouverez tout ce qui vous fait rêver. Pancakes, avocado toast avec œufs pochés, bacon, saumon, granola, brioche perdue. Un délice pour les yeux et pour les papilles. Exactement le genre d'endroit où l'on vient se régaler après avoir lézardé la matinée au lit avec cette envie de continuer à profiter de son week-end en toute simplicité et avec un énorme supplément gourmandise. Gros avantage également, le service. Ils sont tous tellement gentils, efficaces, prévenants et de bons conseils. À la cour, vous pouvez venir entre amis, avec vos collègues pour de grosses tablées, en amoureux, avec vos enfants, en famille. Et c'est ce qui rend ce lieu unique. On s'y sent bien, à la maison, quelle que soit la façon dont on souhaite venir passer un bon moment. Et c'est pour ça que la cour, c'est toujours une bonne idée. C'est tous les jours, rue de Larreau, et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Les podcasts de Sarah que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et juste avant de commencer notre émission, une petite annonce. Il y aura Plateau Ciné qui va vous proposer au cœur de l'atelier d'artistes. Il y aura 4 films de Thierry Charrier qui seront projetés. Ça sera le 20 mars à 19h30 dans la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et si vous êtes plutôt branché musique, il y aura le festival Couleur Chanson. Ça aura lieu les 21, 22 et 23 mars. Au Centre culturel Jean Carmet à Mur-et-Régnier. Et nous, on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, du coup, on parle du festival Terre des Sports, un festival qui est organisé par les étudiants de l'UCO et la DAL Angevine. Ça sera donc les 25 et 26 mars. Et pour en parler, ce soir, on est avec Erin Bréheret. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es étudiante à l'UCO d'Angers. Antonin Perrault, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es aussi étudiant en infocom à l'UCO et Théo Barrier-Crine, bonsoir.
Bonsoir.
Toi, tu es bénévole à la DAL Angevine et tous les trois, donc, vous avez participé à l'organisation de ce festival. Alors, avant de parler plutôt de la programmation, on peut peut-être parler un petit peu de l'historique de ce festival. Théo, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter la naissance de Terre des Sports?
La naissance de Terre des Sports, c'est une rencontre entre l'association La DAL Angevine et l'Université catholique de l'Ouest. La DAL Angevine qui avait à cœur de créer un événement pour rassembler, fédérer et promouvoir le sport, avoir son propre événement. Un événement de divertissement réflexif, on va dire, pour parler de sport avec tous les clubs et les acteurs du sport à Angers. Et puis, de l'autre côté, l'UCO, qui, du coup, eux, ont une formation spécialisée dans le marketing et communication du sport, qui, pareil, avait besoin d'un support, on va dire, pour former ses étudiants. Donc voilà, la rencontre s'est faite entre les deux, où nous, on avait un besoin de ressources humaines, on va dire, pour organiser ce festival, et l'école qui avait un besoin de projets pour faire travailler ses étudiants. Et l'UCO, ça fait maintenant quelques années qu'on collabore sur tous les sujets journalistiques entre le sport et Angers. Et puis nous aussi, on sait que les étudiants sont des futurs professionnels et qui peuvent demain travailler dans des clubs de sport à Angers.
Et c'est une collaboration qui marche bien entre l'UCO et la DAL Angevine. Il y a beaucoup d'étudiants de l'UCO qui viennent à la DAL Angevine.
Oui, tout à fait. Et puis qui ont commencé en tant que bénévoles à la DAL Angevine ensuite et qui ensuite ont trouvé un travail dans le sport. Je pense notamment à Florent qui, pareil, était en licence infocom, qui est devenu bénévole à la DAL et qui a terminé, qui est toujours JRI à l'AS Monaco. Pareil pour Anatole qui était ensuite community manager du SCOFOOT. Alors moi, j'étais à l'IFEPSA, mais qui fait partie de l'UCO aussi. Donc je travaille aussi aujourd'hui dans un autre club du sport angevin. Donc en fait, l'association, c'est un super terrain de jeu pour les étudiants pour se former et puis se faire un réseau aussi par rapport aux acteurs du sport angevin. Oui, c'est comme on dit, c'est un peu notre centre de formation, on va dire, l'UCO.
Et quelle place jouent les étudiants dans ce festival? Quelle place ils occupent?
C'est vraiment les co-organisateurs, les organisateurs. Ils sont organisés en différentes commissions, la commission logistique, la commission animation, la commission partenariat et la commission communication. Donc après, dans chacune de ces commissions, ils ont des tâches spécifiques pour faire connaître ce festival, l'organiser aussi, la programmation. Ils ont vraiment, cette année et plus que les autres années, décidé tout de A à Z. Alors nous, l'association, on est là évidemment pour aiguiller, recadrer, faciliter certaines choses. Mais c'est vraiment par contre les étudiants qui ont ce projet entre les mains et qui l'organisent.
Et ce genre de festival sportif, on le retrouvait pas avant sur Angers? C'est quelque chose qui n'existait pas forcément?
Bah, c'était la volonté de la dalle aussi, c'était de créer son propre événement et qui répondait à un vrai besoin sur Angers et qui n'existe pas ailleurs ou pas organisé par d'autres associations. On aurait pu faire une course à pied, on aurait pu faire des démonstrations de sport, mais non, nous on voulait vraiment quelque chose à nous et qui était différent des autres propositions. Donc oui, le festival Terre des Sports, il est unique en son genre pour ça sur Angers.
Et vous, donc, Erin et Antonin, vous êtes concrètement impliqués dans l'organisation de ce festival. Quel a été votre rôle, Erin? Qu'est-ce que tu as fait, toi?
Eh ben, moi, je suis au sein du pôle communication. Donc, notre but, c'est vraiment de faire connaître le festival, surtout sur Angers, que ce soit aux étudiants de l'UCO, mais aussi à toutes les personnes extérieures qui pourraient être intéressées pour notre sujet. On fait de la communication sur les réseaux sociaux, mais aussi des affiches, du print, la radio, et on gère un peu toute l'image qu'on renvoie du festival.
Et Antonin, toi, quel est ton rôle?
Et moi, je fais partie de la commission partenariat, du coup. Et cette année, notre objectif, c'est concrètement d'obtenir des partenariats, que ce soit via des financements pour le festival ou via des partenariats matériels avec des entités qui nous prêtent du matériel, qui nous aident sur certains points. Et c'est aussi important cette année parce qu'on a changé le mode de financement du festival. Donc ça a pris une importance un petit peu plus importante. Et donc aujourd'hui, on a eu quelques partenariats. Donc ça, c'est plutôt cool.
Est-ce que vous avez pu être confronté à quelques difficultés, justement, à des défis auxquels vous avez dû faire face? Antonin, peut-être?
Au niveau des partenariats, on pourrait dire peut-être que certains ne répondent pas, on tente des choses, on se dit que cette entreprise pourrait s'intéresser à notre festival, nous aider par tel ou tel moyen, et puis finalement ça se fait pas, mais c'est des choses qui arrivent, et puis ça nous permet de rebondir sur d'autres partenariats.
Alors vous, j'imagine, vous avez un petit peu peut-être vu le festival grandir. Du coup, il a commencé il y a 3 ans, on disait que c'était la 3e édition, donc depuis que vous êtes à l'UCO sans doute. Vous l'avez vu avant en tant que spectateur, entre guillemets, ça fait quoi de passer de l'autre côté, Erin?
Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais été bénévole sur le festival. J'avais aidé à filmer pendant une des conférences. Et déjà à l'époque, j'étais intéressée par le sujet et je savais que c'est ce qu'on allait faire l'année d'après. Donc j'avais vraiment voulu le voir en tant que spectateur, et ça avait été très cool, et du coup j'avais hâte de voir cette année. Et effectivement, c'est très différent, on se rend compte vraiment de l'ampleur que ça prend et de tout le travail qu'il faut mettre en amont pour que le jour de l'événement se soit réussi.
Ça change complètement, Antonin, la vision qu'on a du festival, peut-être?
Oui, c'est ça. Moi j'y étais en tant que spectateur l'année dernière, mais là, oui, vraiment, on se rend compte du travail, de tout ce qu'il y a derrière. Quand on y est, on se dit, c'est cool, l'événement est cool, mais derrière, il y a beaucoup de travail et c'est ça qu'on retient.
Oui, finalement, il y a beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail et d'organisation, j'imagine. Théo, c'est quoi un petit peu la philosophie de ce festival?
Ce festival, déjà, c'est rassembler les acteurs du sport angevin et quand je dis les acteurs du sport angevin, c'est à la fois le sport professionnel, mais aussi le sport amateur, le sport valide et le sport en situation de handicap. Enfin voilà, toutes celles et ceux qui sont touchés par le sport. Donc c'est rassembler ces acteurs-là. C'est aussi proposer une réflexion, apprendre des choses quand même, bien évidemment, selon les communautés. Le matin, par exemple, on va avoir des jeunes scolaires. Et l'idée, c'est que ils apprennent des choses, notamment par rapport à nos deux thèmes cette année. Et puis après sur les autres publics, ça va être de ouvrir des curiosités, faire soulever des questions au sein des clubs aussi, parce que c'est un public qu'on cible, c'est les organisateurs de clubs, enfin les bénévoles de clubs qui vivent ces situations au quotidien. Donc voilà un peu le rôle du festival qu'on essaye de perdurer. Ça, peu importe le thème du festival, c'est toujours l'objectif qu'on se donne.
Et qu'est-ce que vous avez retenu du coup des deux précédentes éditions?
Les deux précédentes éditions, la dernière était quand même particulière parce que c'était avant les Jeux Olympiques, donc il y avait une effervescence, un engouement pour le sport global à l'échelle locale et nationale. Donc forcément c'était tout trouvé, on va dire. Et la première année, c'était l'année de lancement, donc on était un peu dans l'inconnu de nous aussi, qui c'est qu'on voulait toucher, comment on allait vraiment s'organiser. Donc la première année, voilà, c'est comme toujours une année un peu test. La deuxième spéciale jeu, et là j'ai envie de dire c'est peut-être la première année qui est normale entre guillemets. Mais comme l'a dit Antonin, on a aussi dû avoir une nouveauté, c'était le mode de financement. Et là, on était en autofinancement cette année. Et ça a permis, par contre, de créer beaucoup de collaborations en amont de l'événement avec les clubs pour faire cet autofinancement. Donc voilà, c'était une vie du projet qui était différente, mais tout aussi passionnante et toujours avec ce même état d'esprit qui était d'être au contact des clubs et des acteurs du sport en juin.
Oui, maintenant, finalement, il est bien rodé, le festival. Il a peut-être aussi trouvé son public. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui connaissent.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est beaucoup plus pratique aussi pour ceux des futures années et de cette année de dire, quand on va promouvoir le festival, de montrer qu'il y a déjà eu des éditions précédentes et ça permet de se projeter pour les futurs intervenants qu'on essaye de cibler. Et puis, peut-être qu'il y a aussi une vocation un peu des clubs peut-être que cette année je vais y participer ou peut-être que ça sera l'année prochaine, mon club sera mis en avant ou ma thématique. Donc oui, il y a peut-être aussi ce côté un peu attractif pour les clubs d'être au cœur de la programmation du festival.
On continuera à parler de tout ça juste après, notamment de la programmation. Donc restez bien avec nous. On va faire d'abord une petite pause musicale. On va écouter Dans le vide de Nels et de Estime.
Jamais j'oublierai, avenir meilleur on en rêvait. Bonheur c'est trop dissimulé, je voulais déjà m'en séparer. On fait quoi? Je sais pas, on arrête, t'es fou. Regarde autour de nous, c'est fou, c'est flou. Jamais, je pensais m'en séparer. M'en veux pas si j'ai tout lâché. Encore une fois j'aurais tout gâché. Je te le redis mais jamais on trahira le passé. Proche de la fin j'y ai trop pensé. Proche de la falaise on a plongé dans le vide. Plongé dans le vide. On a plongé dans le vide. On a plongé dans le vide.
Message pour les miens, c'est un jour je m'en vais. Ne reculez devant rien même si le mal vous effraie. Vous inflige une douleur que les regards bruyants qualifieraient de peur ou d'esprit défaillant. Différent c'était toi, c'était moi, c'était nous. À bout de force certainement, mais jamais à genoux. Rendez-vous sous la pluie, sous les coups. Loin de vous, loin de tout. Quelques larmes sur les armes et c'est fou. Car c'est toute une histoire que j'écris en verset. Et laissé amorcer, je voulais tout inverser. Puis un soir j'ai fait le choix de quitter cet endroit. De ne vivre qu'en souvenir. Quand je m'invite chez toi, à la vie, à la mort, on s'éloigne mais encore, on sait tous qu'on s'ignore, on sait tous que t'avais tort, architecte de ma vie, j'en vois tout dans le décor, donc je préfère l'esprit à la survie du corps.
Imagine bourré un soir si je prends la décision de partir de ce monde. Est-ce que ça fait de moi un homme faible? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que je partirai sur des fêtes? Est-ce que tu te souviens de mes facettes? Est-ce que je me réveille au milieu de la nuit? Je me sers un verre ou deux, j'ai dans la tête des idées ou le suicide. J'allume une clope, je regarde ma vie, est sans succès. Je me dis que ma vie en vaut le sursis. Alors je recommence un chapitre, je récite ma vie et je retombe sur ta messagerie. Est-ce que je suis fait pour la musique en sachant que l'alcool me détruit mais sait me séduire? Est-ce que je suis vraiment fait pour être en vie? Est-ce que ma tête me dit de le faire? Est-ce que j'écouterai ma famille, mes amis ou bien j'agirai seul sans jamais les prévenir? Je voudrais plus jamais les voir, je voudrais plus jamais souffrir. Je veux d'un monde où je peux sourire, je voudrais tout lâcher, j'ai dû fuir. Aujourd'hui j'ai la haine, je fais pas de la musique pour les autres mais pour moi-même. Alors je finirai mon couplet en souhaitant ce genre à moi-même.
Jamais j'oublierai, à bien meilleur on en rêvait. Bonheur c'est trop dissimulé, je voulais déjà m'en séparer. On fait quoi? J'ai pas, on arrête, t'es fou. Regarde autour de nous, c'est fou, c'est flou. Jamais, je pensais m'en séparer.
veux pas si j'ai tout lâché. Encore une fois j'aurais tout gâché. Je te le redis mais jamais on trahira le passé. Proche de la fin j'y ai trop pensé. Proche de la falaise on a plongé dans le vide. Plongé dans le vide. On a plongé dans le vide. On a plongé dans le vide. Plongé dans le vide. Plongé dans le vide. Plongé dans le vide. On a plongé dans le vide. 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 On a plongé dans le vide. 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 On a plongé dans le vide, 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 plongé dans le vide. On a plongé dans le vide, 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 plongé dans le vide.
On écoutait Dans le vide de Nels et Estime sur le 101.5 FM de Radio G. Et on est toujours en compagnie de Erin, Antonin et Théo pour parler du festival Terre des Sports. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu de la genèse du festival et de son organisation. Mais maintenant, si on se concentre un petit peu plus sur le programme, donc ça se déroulera le mardi 25, si je dis pas de bêtises, et mercredi 26 mars. Quelles seront les grandes lignes pour cette édition, Erin ?
Et bah d'abord, notre thème général, on va dire, le titre du festival cette année, c'est Remise en jeu. Donc c'est notamment pour reparler de, enfin pour parler de l'après Jeux Olympiques et de l'héritage que ça a pu avoir en France. Et après, on a décidé de séparer donc en deux jours avec deux thèmes différents qui abordent tous les deux l'inclusion dans le sport. Le premier, ce sera sur le sport et le handicap. Donc le titre de la journée, c'est Repoussons nos limites. Pour aborder donc l'inclusion de ce point de vue-là. Et le deuxième enjeu pour elle, ce sera sur le sport féminin et l'inclusion des femmes dans le sport.
Et pourquoi c'est ces deux thèmes qui sont particulièrement ressortis, Antonin ? Comment ils ont été sélectionnés ?
Eh ben, ça a été l'un de nos premiers cours. On a eu, je crois, les deux premiers cours concernaient un brainstorming général. On était tous ensemble pour aborder ça. Et il n'y avait pas forcément de thème précis au début. Et c'est les idées qui allaient de chacun. Qu'on a regroupé, qu'on a vu lesquels allaient ensemble, lesquels plaisaient au plus de personnes et lesquels étaient le plus adaptés aussi au festival. Et c'est ce thème qui est ressorti.
Après, il y avait un contexte, on va dire, c'est qu'on était l'année après les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc c'était quand même un événement marquant. On est aussi prochainement d'autres Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver avec les Jeux d'hiver. Donc, on a essayé quand même de définir un certain contexte avec la médiatisation du handisport qui avait été incroyable l'été dernier, la sous-médiatisation du sport féminin, et il y a le Tour de France féminin qui arrive à Angers en juillet. Donc on avait quelques pistes et c'est autour de ces pistes-là aussi que ça a été construit.
C'était vraiment des éléments importants, j'imagine, à mettre en valeur. Alors le festival, il va commencer, je crois, avec des animations auprès de l'école Voltaire et du lycée Les Buissonnets. Pourquoi cette volonté d'impliquer les jeunes Théo, peut-être, c'est depuis le début du festival, cette envie d'impliquer les jeunes ?
Alors oui, c'est toucher tous les publics, avec forcément des propositions adaptées, mais c'est toucher tous les publics. La force de l'association, justement, c'est d'être en contact avec des écoles. On est en partenariat avec l'école Voltaire. Cette connexion s'est faite tout naturellement et c'est pour perdurer les liens avec cette école. Et sur le lycée, là, pour le coup, c'est l'apport d'une étudiante aussi qui avait des connexions avec ce lycée. Donc voilà, on croise un peu les réseaux et c'est la force de cette organisation à plusieurs parties.
Justement, c'est ce que vous faites, vous croisez les réseaux, vous allez chercher dans vos amis, peut-être vos proches, Erin, pour trouver des idées pour le festival.
Oui, c'est sûr, on est preneur de tout ce qu'on peut avoir. Il y a surtout le pôle animation, c'est eux qui ont créé l'entièreté de la programmation. Ils ont été preneurs de toutes les idées que chacun pouvait avoir, mais ils ont aussi fait leur travail, eux, de leur côté, et trouvé les meilleurs intervenants pour que ce soit un festival de qualité.
Antonin, comment vous sélectionnez les disciplines que vous allez mettre en avant ? Par exemple, je crois qu'il y aura de l'escrime handisport et du football freestyle.
Et ben ça, c'est également le pôle animation qui gère toute la programmation. Eux, ils ont leur thème pour la journée, et après ils sont chargés de trouver les meilleures animations, ce qui correspond le plus. Et après, ils font en fonction des profils aussi, des profils qui ils ciblent certains profils. Certains peuvent, certains ne peuvent pas. Et c'est après que ça se fait comme ça, en fonction des connexions, même avec certains clubs également.
Alors, le premier jour, il y aura un quiz et une table ronde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en toucher deux mots, Erin?
Alors oui, déjà, sur la journée en elle-même, on a donc un village avec plusieurs stands différents. Et après, on aura des temps forts avec des initiations à différents sports. En l'occurrence, du volley assis, du para-tennis de table, même du para-athlétisme. Et on a aussi des démonstrations de foot freestyle. Et enfin, dans la soirée, donc on a un grand quiz qui a été organisé par une partie des étudiants, où ce sera des questions sur le sport de manière générale. Et on finira la première journée donc par une table ronde sur le thème de sport et handicap. On a quatre intervenants. Il y a Claire Supiot, donc une athlète paralympique et olympique en natation. Il y a aussi Robin Gastric qui fait du para-handball et du para-athlétisme. Renaud Vadan qui est commentateur audio-description pour les Jeux Paralympiques. Et Fallon Pégé qui est une des lauréates de la Dallangine cette année et qui participe aux Jeux des Transplantés.
Et si on parle un petit peu du second jour, je crois qu'il y aura des sports de combat et la féminisation du sport, notamment, qui seront au cœur de cette journée. Antonin, si tu peux peut-être un petit peu nous en parler.
Oui, bien sûr. On a surtout Lina Amouche qui sera présente sur cette journée, qui est également une lauréate de la dalle cette année et qui animera du coup une initiation au MMA féminin. Et à côté de ça, on aura un team training sur la journée. On aura également une initiation au self-défense féminin. On aura toujours un village qui sera cette fois-ci adapté à la thématique de la deuxième journée. Et après, on finira sur une table ronde qui sera animée par Thierry Lardeux, comme le premier jour. Thierry Lardeux qui est la voix d'Angers. Et du coup, à cette table ronde, on aura Lina Amouche. Et également Marion Hérault-Garnier, qui est une consultante sur le cyclisme féminin, qui travaille notamment pour France Télévisions. Et Quentin Boissard, qui est lui plutôt un spécialiste du sport féminin et qui est également le fondateur d'un média sur le sport féminin.
Alors si on peut peut-être donner à voir un petit peu à quoi ça va ressembler ce festival, ça sera quoi dans le hall Bazin, je crois? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura plein de petits stands. Comment ça va se passer, Erin?
Et c'est ça exactement. Donc c'est dans le hall Bazin et sur les deux jours, donc nos stands ils vont changer en fonction du thème. Mais par exemple pour le premier jour, il y aura des stands d'exposition puisqu'on va avoir des prothèses et puis des stands d'information avec plein d'informations sur le sport santé, le sport handicap, notamment aussi la manière dont sont classés les athlètes pendant les Jeux paralympiques par exemple, des espaces de débat et de quiz, et aussi du coup des espaces pour s'initier à certains sports. Et le deuxième jour, c'est pareil, on aura d'autres stands, mais là tournés donc vers le sport féminin, avec notamment sur la pour les menstruations, la santé aussi, et encore ces mêmes stands qui restent un peu sur les deux jours, sur des quiz, des débats, de la culture, et il y aura aussi des expositions photos.
Vous restez avec nous tout à l'heure, on continuera à parler de tout ça et notamment de votre implication en tant qu'étudiant de l'UCO et bénévole de la Dalle Angevine dans ce festival. Mais juste avant, on va faire une petite pause, on va écouter La Drôle de Vie de Léo Nagral.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Heureusement qu'on ne voit pas de publicité pour alcool fort à la télévision. Ne serait-ce que pour éviter aux acteurs de mal finir.
Alors salut à toi,
Eugène.
Voilà, Eugène. Ok, bon alors comme tu le sais, on t'a choisi pour tourner une pub pour une marque de vodka glacée.
De la vodka glacée? Oh!
Ouais, la vodka glace, ça s'appelle.
Original.
Est-ce que tu peux nous confirmer que tu tiens bien l'alcool? Parce qu'on risque de faire plusieurs prises.
Mais de toute façon, on va pas utiliser de la vraie vodka pour la pub, hein? Pas vrai?
Bah si, justement, le client veut qu'on utilise leur propre vodka pour faire plus authentique. T'as pas lu le scénario?
Si, si, mais...
Je te rappelle que dans la scène, tu dois te servir un bon verre de vodka pur que tu dégustes devant la caméra. Eugène?
Oui?
Tu tiens bien l'alcool, t'es sûr?
Oui, oui, oui.
C'est bon pour toi?
Ouais, ouais, on peut y aller.
Allez, moteur, action!
Permettez-moi de vous présenter la vodka Glagla. Cette petite merveille vous fera bondir jusqu'au 7e ciel. Quel délice!
Coupé!
Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas bon?
C'est à toi qu'il faut demander ça. T'as bu la gueule que t'as tiré quand t'as bu le verre?
Ah ouais, mais c'est vachement fort quand même, hein.
On veut pas le savoir. T'as voulu ce rôle, tu assumes.
Ouais, mais...
On reprend, action!
Permettez-moi de vous présenter la vodka Glagla. Cette petite merveille vous fera bondir jusqu'au 7e ciel.
Oh merde, mais il s'étouffe ce con, coupé!
Désolé, ça va aller, on peut reprendre.
Action!
Permettez-moi de vous présenter la vodka Glagla. Cette petite merveille vous fera bander jusqu'au 7e ciel. Quel délice! Vous aussi, essayez la vodka Glagla. Vous retrouverez toute la saveur de l'alcool et toute la fraîcheur d'une boisson à déguster été comme hiver. La vodka Glagla, c'est bon pour le foie.
Coupé! Bon alors c'était parfait, mais t'as juste dit bander au lieu de bondir, on va la reprendre.
Je sais pas si je serais capable de la refaire là.
Au pire, on va faire un raccord avec la prise d'avant, ça ira plus vite.
Ah cool, merci.
Michel!
Quoi encore?
On a oublié d'appuyer sur enregistrer.
Bon, Eugène, va falloir tout refaire.
Oh!
Allez, courage, tu peux y arriver. Action!
Permettez-moi de vous présenter la vodka Galgal. Cette petite merveille vous fera retrouver toute la vodka de l'alcool. Quel supplice! Vous aussi, essayez la boisson du 7e ciel qui vous fera bondir été comme hiver en toute fraîcheur à déguster. La vodka Galgal, un délice pour le foie.
Coupé! Alors là, t'as tout inversé, y'avait rien de bon. On reprend, action!
Permettez-vous de moi présenter la Glulga Vodka. Cette petite merveille vous fera retrouver tout le supplice de l'alcool. Quelle bonne pisse! Essayez-vous la boisson aussi du ciel qui vous fera bondir à été comme 7e fraîcheur à déguster en tout hiver. La vodka, glagla, ça défonce le foie.
Et merde, coupé! Eugène, t'es toujours là? Fais chier, on va encore devoir appeler une ambulance.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Gral que vous pourrez retrouver dans 2 semaines sur Topette. Et bah d'ailleurs, vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On est toujours accompagné de Erin, Antonin et Théo pour parler du festival Terre des Sports. Et justement, Erin et Antonin, vous êtes tous les deux étudiants en 3e année de licence information et communication à l'UCO. Comment ce projet il s'inscrit dans votre licence, Erin?
Du coup, on est dans la mineure communication et marketing du sport depuis presque le début de la licence. Et c'est vraiment notre projet de fin d'études. Donc, c'est un événement qui prend vraiment beaucoup de place dans notre emploi du temps. C'est vraiment la majorité de notre cursus cette année. Et c'est la concrétisation de tout ce qu'on a pu voir en cours les années passées, vraiment dans un événement qu'on crée et qui est concret. Donc c'est la finalisation de notre licence.
C'est finalement le côté pratique, Antonin?
Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est vrai qu'on a fait 3 ans de licence sans alternance. Il y a pas mal de formations en alternance. Et c'est là qu'on voit vraiment la chose pratique dans l'organisation du festival, et puis depuis la L1, on nous le vend comme le projet de la licence, et c'est aussi un élément important qu'après on peut utiliser, que ce soit sur nos CV ou des entretiens, enfin pour des écoles ou pour un travail. En fait, c'est un projet où on était vraiment impliqué, qu'on a eu l'importance dedans. Donc non, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant après.
Et quelles compétences ça vous a permis de développer toute cette organisation, la préparation de ce festival, Antonin?
Déjà, c'est un travail d'équipe, donc c'est quelque chose qui est important, surtout dans le domaine de la communication. Puis après, pour parler de moi, je sais que moi j'étais plutôt du côté communication, et là d'aller vers les partenariats, c'était un choix. Et aujourd'hui, ça m'a permis de découvrir autre chose, de voir comment ça peut fonctionner les relations partenariales. Donc je suis ravi, moi, d'avoir découvert ça.
Erin, toi, t'as pu peut-être développer ta capacité à communiquer, des choses comme ça t'a appris beaucoup de choses aussi?
Ouais, vraiment, c'est très, très formateur. Bah, déjà, comme l'a dit Antonin, le travail d'équipe, c'est vraiment la chose principale parce que on est quand même un groupe de 24 étudiants. Après, on est répartis par pôle, mais c'est quand même une classe entière qui gère un projet. Donc, faut forcément faire avec, bah, tout le monde. Et moi, plus personnellement, bah oui, je suis au sein du pôle communication. Donc, c'est pareil, c'est une suite logique de toute ma formation et c'est un avant-goût, une avant-première de ce que je veux faire après. Donc, ça m'a permis de confirmer que j'avais choisi la bonne voie et que voilà, je passe mes semaines à faire du Photoshop et à mettre à faire des posts sur les réseaux sociaux et ça me passionne.
Théo, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? C'est un projet dans lequel les étudiants sont peut-être souvent très investis, ils y mettent tout leur cœur et ils apprennent beaucoup de choses?
Oui, parce qu'il y a quand même aussi cet enjeu pédagogique pour eux. Mais en effet, il y a beaucoup de projets scolaires qui sont fictifs. Et là, pour le coup, c'est un vrai projet scolaire réel, professionnel. Et donc, si ça peut les aider aussi, eux, à se développer, à prendre la parole en public, à utiliser un logiciel qu'ils auraient peut-être pas autant utilisé sinon, et bah, c'est parfait aussi pour leur cursus scolaire. Et on a aussi cette posture-là d'enseignant à avoir. Parce que, bah, comme on disait, ça reste aussi un projet scolaire.
Et est-ce que, justement, ça vous a donné envie de continuer, de poursuivre votre cursus dans le sport, Erin?
Oui, moi, l'année prochaine, du coup, bah, on est en dernière année, donc on pense forcément au master. Et bah, moi, je continue sur un master en communication du sport, en alternance. Donc, en fait, c'est littéralement ce qu'on fait là au quotidien. C'est pour préparer ce festival, c'est ce que je veux faire après aussi.
Pareil, toi Antonin, ça t'a donné envie de continuer dans ce domaine?
Bah, ça m'a donné envie de continuer dans ce domaine qui est la communication, mais pas forcément dans le sport. Moi, je préfère plutôt m'élargir, voir d'autres champs d'action. Et du coup, bah, moi, ça va être la guerre de mon master qui m'attend. Mais en tout cas, non, je souhaite continuer mes études, mais plutôt élargir mes possibilités.
Et quels conseils vous donneriez aux étudiants l'an prochain qui vont aussi devoir faire ce festival Terre des Sports? Peut-être un mot, un conseil, quelque chose à faire, Erin?
Moi, je dirais que c'est quand même s'impliquer parce que c'est un. En fait, faut avoir l'envie de vraiment travailler dedans et de. Parce que si tu suis le projet un peu de loin, bah forcément, au bout d'un moment, ça va être. Enfin, on passe quand même énormément d'heures dessus. Et que si tu suis pas vraiment et que t'es pas vraiment motivé par ce que tu vois et que tu te rends pas compte de ce que ça peut t'apporter, bah, c'est dommage et je pense que on peut rater une opportunité. Donc, vraiment, s'intéresser au maximum et se dire que c'est une chance de pouvoir faire tout ça alors que on est en licence et que c'est censé être plus théorique que pratique.
Antonin, c'est vraiment un projet dans lequel il faut beaucoup s'investir.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est difficile d'être qu'à 50% dedans. Faut vraiment être au courant de tout ce qui se passe, même des autres commissions. Et puis moi, je retiens, c'est surtout de l'organisation. Vu qu'on est, des fois, on a l'impression d'être 4 ou 5 dans notre commission, mais au final, on travaille ensemble. Et également, c'est de la rigueur parce que faut être vraiment carré sur tout ce qui se passe. Parce que bah, là, pour le coup, on le dit, c'est un projet réel. Et on a également bah, la Dalle Angevine qui est derrière, donc c'est une entité à faut pas ternir son image non plus, donc c'est de la rigueur.
Et justement, c'est bientôt la fin pour nous, pour Topette. Si vous auriez peut-être des conseils, est-ce qu'il faut réserver avant de venir? C'est un festival qui est en libre accès pour tout le monde, c'est gratuit. Erin?
Oui, c'est gratuit en libre accès, mais on conseille bah, notamment pour certaines de nos animations, comme les initiations, de s'inscrire sur les liens Google Form qu'on a partagés en story Instagram. Vous pourrez retrouver ça donc, sur notre compte Instagram. Et pour les conférences, enfin les tables rondes, c'est en libre accès dans la soirée.
Antonin, est-ce qu'il y a une table ronde, une animation à laquelle... Laquelle tu conseillerais particulièrement?
Et bah, franchement, c'est les deux gros temps forts de ce festival, ce seront les deux tables rondes, donc c'est les événements à ne pas manquer.
Est-ce qu'on pourra vous retrouver tous les trois peut-être sur le festival? Vous serez sur place, Théo, tu seras sur place?
Oui, bien sûr, donc rendez-vous les mardis 25 et mercredi 26 mars à Luco.
Et bah parfait, c'est noté pour nos auditeurs, on vous retrouvera très certainement là-bas. Nous, pour le programme de la semaine lundi, donc on était avec le Sésame pour parler de films. Hier, on était avec le Quasimodo Et demain, on retrouvera notre partenaire Loire-Authion. Et je vous rappelle aussi que Plateau Ciné vous proposera au cœur de l'atelier d'artistes. Il y aura 4 films de Thierry Charrier qui seront projetés. Ce sera le 20 mars à 19h30 à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et si vous êtes plutôt branché musique, il y aura le festival Couleur Chanson. Ça sera les 21, 22 et 23 mars au CCJC à Mur-et-Régnier. Et nous, on va se quitter avec la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Et moi, je vous dis à demain et topette. Alors Tonton, ta bouteille d'il y a 15 jours présentait un petit côté enthousiaste, carrément surprenant. En gros, elle était moins vide que d'habitude. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Eh bien, je te rassure, on a retrouvé le niveau habituel. Du pur trois quarts vide. Encore que par certains aspects, l'on peut dire qu'il ne faut pas hésiter à regarder la portion encore pleine du récipient, histoire de sourire franchement à l'énoncé des deux anecdotes que je vous rapporte.
Deux anecdotes pour le prix d'une ? Tu nous gâtes, Tonton, mais attends, tu parles de sourire à l'énoncé de la bouteille du jour, tu vas nous reparler de la SNCF ?
La perspicacité des animatrices de Topette m'étonnera toujours. En effet, c'est une équation qui fonctionne plutôt pas mal. Anecdote plus sourire égale SNCF. 2 minutes d'arrêt, les voyageurs pour Topette et La Roche-sur-Yon restent en voiture. Oui, parce que ce soir, je vous embarque à La Roche-sur-Yon. C'était le dernier vendredi de février et je me rendais chez des amis résidents en Vendée. Ce qui m'imposait au départ de chez moi de changer 2 fois de train, une fois à Angers et l'autre fois à Nantes. Sans doute animé d'une intuition salutaire, je me suis dit « Prends donc un train plus tôt au départ de Saint-Mathurin, des fois qu'il aurait du retard et qu'arrivé à Angers, tu raterais la correspondance pour Nantes. » Une remarque forgée par l'expérience des voyages en TER pétrie au sceau du bon sens. Sauf que
ce n'est pas au départ de Saint-Mathurin que le train était en retard.
Oui, t'as failli en avoir aussi du retard, toi. Bon, tout juste, ma jeune amie. Après avoir patienté une petite heure en gare d'Angers afin d'être sûr d'être à l'heure, je constatais sur le tableau d'affichage que le TER devant me conduire à Nantes, lui, ne l'était pas du tout à l'heure. Il accusait un retard de 10, puis 15 et d'enfin 20 minutes. En clair, c'était plutôt mal parti pour attraper ma correspondance pour La Roche-sur-Yon. Je remarque alors qu'un autre TER pour Nantes est affiché. Il part plus tard que celui que j'étais censé prendre, mais compte tenu du retard annoncé, il devient compétitif. Une fois arrivé à Nantes, je verrai bien ce que l'on me propose pour aller à La Roche-sur-Yon. D'autant qu'un humain à casquette officielle, oui, la SNCF n'est pas encore parvenue à remplacer tout son personnel par des automates à la gare d'Angers, me confirme que j'ai tout intérêt à prendre le second train plutôt que le premier. Celui-ci évoluant pour l'instant quelque part en rase campagne. Me voilà donc dans le second TER en misant sur ma bonne fortune et au bout d'un gros quart d'heure de trajet...
Non, mon tonton me dit pas qu'il est tombé en panne.
Non, c'est encore mieux que ça. Le conducteur se met à causer au micro pour annoncer que nous allons nous arrêter à la prochaine gare pour permettre au train qui nous suit et qui est en retard de passer devant nous. On se demande bien quelles sont les raisons d'un tel jeu s'apparentant à la chaise musicale, mais qu'importe. Autrement dit, quand ça veut pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Le côté positif de cette annonce, c'est qu'elle a déclenché une franche hilarité complice entre les passagers de ce train. Toujours à la bourre, certes, mais dans la bonne humeur. Je me dis que les conducteurs de train devraient faire du stand-up. Je crois que leur carrière serait rapidement lancée sur des rails.
C'est effectivement d'un bon niveau. Et alors, ta seconde anecdote ?
Celle-là, elle provient d'une affiche placardée à Angers et qui m'a quelque peu étonné. J'ai même cru à une hallucination tellement l'information qu'elle indiquait m'a paru surprenante.
Et elle annonçait quoi cette affiche ?
N'allons pas trop vite. Dans un premier temps, je me suis juste dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» L'affiche montrait le portrait de l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Instantanément, j'ai d'abord pensé que notre bon président venait encore de dissoudre l'Assemblée nationale, que j'avais raté ce nouvel épisode de l'agonie de notre 5e République moribonde et qu'il tentait de parachuter à Angers cette figure emblématique du macronistan.
Mais ce n'était pas ça.
Ben non. Apercevoir une seconde affiche a éclairé ma lanterne. Éric Dupond-Moretti était attendu au centre de congrès, non pas pour un mitinge en vue de prochaines législatives anticipées, mais pour un spectacle, un one-man show. Il paraît que ce monsieur a des choses à dire et que ses propos sont susceptibles d'intéresser nos contemporains. Avoir connaissance de quelques ragots piochés au sommet de l'État donne toujours l'illusion aux imbéciles de faire partie d'un sérail auquel ils n'ont pas accès. Comme chacun le sait depuis Jéricho, les ragots, ça méduse.
Je vois le tableau.
En somme, maintenant qu'il n'est plus ministre, il faut bien que cet avocat détenant le record absolu des acquittements aux assises s'occupe. On trouve facilement sur Internet un reportage à lui consacré. On y voit notamment la secrétaire de son cabinet lillois se plaindre de voir fort peu son patron, celui-ci étant toujours parti par Mons et par Vaux, en quête d'acquittements supplémentaires pour étoffer son CV. Aussi a-t-on envie d'annoncer à cette brave dame que ça ne va pas s'arranger, et qu'en plus, s'il fait des rappels, il n'est vraiment pas prêt de regagner son bureau. On se plaindra après de la lenteur de la justice. Le reportage dépeint celui qui n'était pas encore ministre au moment du tournage comme un authentique rebelle. Ben oui, fumer le cigare en tout lieu où c'est interdit, ça annonce la couleur. L'on voit aussi Éric Dupond-Moretti assurer l'animation lors de l'un de ces dîners parisiens qui accueille le gratin, en salle mais pas en cuisine, de tout ce qui est bien né et où a su faire fortune. Et la jet-set sirotant son Dom Pérignon de s'esclaffer au bon mot de notre avocat, réinventant le tribunal des flagrants délires. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, le tribunal des flagrants délires a été de 1980 à 1983, je sais, c'est la préhistoire, une drôlissime autant que caustique émission de France Inter. Franchement, monsieur Dupond-Moretti est-il tant que ça dans le besoin pour le voir s'assimiler à un intermittent du spectacle? Certes, il est notoire que les riches n'en ont et n'en auront jamais assez. L'on peut même affirmer que les riches sont décidément impayables. En revanche, rien n'oblige les manants que nous sommes à leur apporter notre obol. Il y a des gens vivant dans la rue qui sont bien plus dans la galère que les anciens ministres jouant les cabotins.
Thank you. Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.